Martin Hingis a battu l'Israélienne Shear Peer 6-3, 2-6 et 6-3. Et maintenant, nous allons vite à la bourse.
La bourse avec Lawson, éditeur d'ERP, né de la fusion avec Intensia.
Et la séance est toujours à la baisse, Cédric Decoeur.
Oui, Jacqueline, après avoir pourtant ouvert en hausse, le marché parisien a rapidement basculé en territoire négatif, handicapé par le billet vert et le pétrole. Actuellement, le CAC 40 cède donc 0,53% à 4933 points dans un volume d'affaires d'1,5 milliard d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. Ailleurs, sur le vieux continent, la tendance est plus hésitante. Francfort perd 0,67%, mais Londres résiste, plus 0,16%, et l'Euroforce 80 décroît de 0,51%. Enfin, sur le marché des changes, la monnaie unique est en forme contre le billet vert. Elle a frôlé ce matin le seuil d'1,30$. L'euro se négocie en ce moment contre $1,2957 en hausse d'1,1% face à la devise américaine. Voilà, Jacqueline, je vous rappelle le CAC 40, moins 0,53% à 4933 points à la Bourse de Paris pour France Inter. Cédric Decoeur.
Merci Cédric. 14h03, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, un des plus grands auteurs français à la cour de Louis XIV, Jean Racine. J'ose dire pourtant que je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Jean Racine, Britannicus. D'histoire. Je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. En faisant ainsi parler une héroïne de Britannicus, Racine pensait peut-être à lui-même. Encensé de son vivant par ses contemporains, il fut aussi violemment attaqué par ses rivaux. Parce qu'il avait de l'ambition, certains n'ont vu en lui qu'un courtisan sans scrupules, prêt à toutes les trahisons et toutes les bassesses pour de l'argent, un titre de noblesse et une place à la cour de Louis XIV. Mais sans son talent, que serait-il resté de celui qui, avec Corneille et Molière, fait partie des trois plus grands auteurs classiques du XVIIe siècle, celui dont des générations d'écoliers ont appris par cœur les alexandrins les plus célèbres d'Andromaque, de Britannicus, d'Iphigénie, de Phèdre, d'Esther, ou de son unique comédie, Les Plaideurs. Mais tout le monde, en revanche, a oublié cette tragédie médiocre par laquelle avait commencé l'ascension de Racine, quand, en 1664, Louis XIV avait demandé à Molière de jouer la première pièce de celui qui allait devenir son plus dangereux rival.
Madame me recommande un de ses protégés, Monsieur Racine. Vous m'obligeriez, Molière, en créant la pièce qu'il vient d'écrire. La Thébaïde, je crois.
C'est une comédie.
Ça, je ne sais, vous verrez. Et je vous fais confiance pour nous arranger cela. D'ailleurs, avec vous, on ne sait jamais s'il faut rire ou pleurer.
Mes amis ! Hé, mes amis ! Je vais vous présenter M. Jean Racine, l'auteur de la Thébaïde.
Attention, le roi a eu l'heureuse idée de me confier la création.
C'est une tragédie ?
C'est une tragédie. Tu sais très bien que nous ne sommes ni toi ni moi et personne ici capable de jouer la tragédie.
C'est une belle pièce, René. Mmh.
Vous êtes père et dans ses ennemis.
Créon, vous êtes père et dans ses ennemis. Peut-être songez-vous que vous avez un fils. On sait de quelle ardeur Raymond sert Polynice.
Georges Forestier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à la Sorbonne, spécialiste du théâtre français du XVIIe siècle et auteur d'une monumentale et très belle biographie de Racine qui vient de sortir chez Gallimard, La vie d'un homme couvert de gloire, de titres, d'honneur par Louis XIV, alors qu'il était issu d'un milieu très modeste, vous le rappelez, et qui ne le prédisposait pas à devenir un auteur de pièces de théâtre.
Oui, il est né à La Ferté-Milon, qui est un petit bourg endormi de Picardie, qui est toujours un petit bourg endormi de Picardie. Il est issu d'une famille de petits notables, même si l'un de ses grands-pères était l'homme le plus puissant de La Ferté-Milon, puisqu'il était président du grenier à sel, qui était un endroit clé à l'époque sur le plan économique et politique. Mais malgré tout, rien ne laissait présager qu'il allait devenir l'un des principaux courtisans du roi Soleil, admis même à coucher dans sa chambre lorsque le roi était malade.
Alors, à l'âge de 4 ans, il arrive un drame, mais un drame qui a été un peu providentiel pour lui. Il est orphelin de père et de mère, et il est recueilli à l'abbaye de Port-Royal, qui était très important, c'était les jansénistes à l'époque, et c'est c'est là, au fond, qu'il va découvrir le théâtre, la littérature.
Plus exactement la littérature plutôt que le théâtre, parce qu'à Port-Royal, on détestait le théâtre, on avait en horreur le théâtre, parce qu'il il enseignait à prendre goût aux passions, justement, et tout enseignement chrétien visait à délivrer l'homme de ses passions.
C'est le rigorisme des jansénistes très important.
Mais malgré tout, comme c'était un enseignement fait par les meilleurs spécialistes, enfin les meilleurs connaisseurs de la littérature de l'Antiquité et de la poésie de l'Antiquité, même si on essayait d'enseigner essentiellement l'histoire, on ne savait pas faire autre chose qu'enseigner aussi la poésie pour enseigner la belle écriture du latin, du français. Etc. Et c'est la raison pour laquelle Racine a bénéficié d'une éducation hors pair de ce point de vue-là, bien meilleure que ceux qu'on recevait pourtant dans les meilleurs collèges de l'époque, qui étaient les collèges des jésuites que Corneille a fréquenté avant lui.
Alors malgré l'inversion des jansénistes pour le théâtre, Racine s'y intéresse de plus en plus. Et alors on a l'impression, en vous lisant Georges Forestier, que c'est plus peut-être par ambition que par goût, parce qu'à l'époque, vous le rappelez, la tragédie c'était le moyen le plus important, le plus connu, la littérature en général, la tragédie en particulier, de se faire connaître.
Alors, il faut s'entendre de ce qu'on entend par ambition. Ambition d'obtenir de la gloire, parce que pour un enfant qui est éduqué dans l'admiration des plus grands auteurs de l'Antiquité, Virgile est immortel, Euripide est immortel, et c'est cette immortalité-là, pardon, qu'il a cherché à obtenir. Et effectivement, tout en haut de la hiérarchie littéraire, il y avait la tragédie. Et donc, réussir dans la tragédie, c'était d'abord immédiatement se faire un nom, obtenir du succès, et le succès au XVIIe siècle, comme au XIXe siècle au théâtre, rapportait beaucoup d'argent. Et effectivement, c'était une manière de gagner les deux.
Et c'est ainsi entré à la cour où Racine est introduit en 1664.
Monsieur Racine, c'est moi qui ai tenu à vous avoir ici. Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre de la royauté, le meilleur se passe souvent en coulisses. Puis-je vous présenter Catherine Dessay, veuve mon voisin, dites la voisin. Spécialiste des poudres de succession, bouillon de 11 heures, aiguilles et autres instruments, messe noire. Comme le dit madame, rien ne vaut une empoisonneuse pour éviter d'être empoisonnée. Que nous donnerez-vous?
Quelques verres d'Andromaque. Cherchez-vous, madame, un espoir si charmant me serait-il permis?
Allez, c'est pareil devant l'arrêt.
Ah, madame, les Grecs, si j'en crois leurs alarmes, vous donneront bientôt d'autres
mesdames,
sujets.
Mesdames, la reine!
Être accueilli à la cour de Louis XIV, Georges Forestier, évidemment, c'était le rêve de tous les écrivains. Comment est-ce que Racine a pu s'y introduire?
Eh bien, tout simplement parce qu'il avait répondu à l'appel d'un des principaux artisans de la politique culturelle du roi, qui consistait à demander à tous les écrivains d'écrire des poèmes à l'éloge de Louis XIV. Et donc, il a écrit un poème d'éloge de Louis XIV, meilleur que les autres, et il a été tout de suite remarqué par ce grand commis de l'État qui s'appelait Chapelain, qui était le bras droit de Colbert de ce point de vue-là. Et en même temps, ce poème a été remis à l'un des grands seigneurs les plus proches de Louis XIV, qui était le duc de Saint-Aignan. Et le duc de Saint-Aignan qui a rencontré Racine, qui a été ébloui parce que Racine avait un art de la conversation et un esprit que tous ses contemporains ont admiré jusqu'à la fin. Et c'est la raison pour laquelle il a pu être admis à être présenté, mais très fugitivement. Lorsqu'on a 20 et quelques années, qu'on est l'auteur, qu'on a un poème d'éloge, c'était très fugitif. C'est ensuite que, grâce à ses succès tragiques, il va être véritablement dans l'ordre.
Succès qui vient pas tout de suite. Je crois que sa première pièce, qui a été jouée par la troupe de Molière, qui jouait plutôt la comédie, et là c'était une tragédie, La Thébaïde n'a pas eu un énorme succès. C'est pas, contrairement à ce qu'on a entendu dans un extrait de film, c'est pas Louis XIV qui a demandé à Molière de faire jouer La Thébaïde.
Pas du tout, c'était une rencontre. La Thébaïde était promise au théâtre concurrent qui était l'hôtel de Bourgogne. Il se trouve que Molière avait besoin d'une création parce que son Tartuffe venait être interdit, et c'est la raison pour laquelle il a fait affaire avec Molière. Mais cela dit, Molière créait régulièrement des tragédies, y compris celle de Corneille, mais la troupe était effectivement jugée meilleure dans le comique que dans le tragique, mais c'est pas du tout comme on le voit dans certains films où Molière ne savait pas et ses compagnons ne savaient pas jouer la tragédie. Ça, c'est de la légende.
Alors La Thébaïde, pas un énorme succès. Il y a un Alexandre le Grand, en revanche, qui plaît beaucoup au roi, d'autant plus que cette pièce lui est dédiée.
Tout à fait. Alexandre le Grand, il faut savoir que c'était une des images du roi. On surnommait Louis XIV le nouvel Alexandre, comme on le surnommait Jupiter, Hercule, etc. Louis XIV était qualifié depuis sa naissance, avant même de faire quoi que ce soit, le plus grand de tous les rois. Et donc, faire une pièce sur le sujet d'Alexandre le Grand, c'est effectivement rentrer dans une politique d'État en définitive, puisqu'au même moment, Lebrun est en train de peindre ces grands tableaux qu'on voit aujourd'hui au Louvre, des batailles d'Alexandre. C'est-à-dire, donc c'est la raison pour laquelle le roi a été séduit par cette pièce. Il a même demandé à ce que la pièce soit enlevée à la troupe de Molière pour passer à l'hôtel de Bourgogne, ce que certains ont interprété comme une trahison, mais en fait la légende aussi, là encore, Molière, Racine est quasiment innocent de cela, puisque c'est sur l'ordre du roi que ça s'est fait.
Alors, cette pièce, c'était un peu, on dirait aujourd'hui qu'il est un peu lèche-botte, Racine. Alexandre le Grand, c'est le roi, etc. Enfin, vous direz, tous les grands artistes de l'époque faisaient pareil.
Tous les grands artistes, et il faut savoir que jusqu'au moment où les guerres dans les années 1690 vont épuiser la France, il n'est pas un Français, et on a des témoignages de voyageurs étrangers qui le disent, qui n'admirent, mais Louis XIV, si je puis dire, avec une admiration sans borne, vraiment sans borne, sans limite. Il suffit de lire Madame de Sévigné qui dit, mais il faut trouver un historien au roi qu'on pourra lire encore dans 2000 ans, parce que les exploits de Louis XIV sont jugés les plus grands de tous les temps.
Alors cela dit, ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Les rivaux de Racine commencent à se manifester, ils voient d'un mauvais œil cet homme débarquer à la cour, s'y faire remarquer. Il y a aussi des critiques qui viennent de son ancienne école, enfin de Port-Royal, des jansénistes, et notamment celui de Pierre Nicole, qui reproche à Racine non seulement d'avoir écrit Alexandre, mais d'écrire des pièces de théâtre. Il y a cette phrase terrible de Pierre Nicole qui dit « Un faiseur de romans et un poète de théâtre est un empoisonneur, non des corps, mais des âmes des fidèles. » Alors évidemment, Racine prend ça très mal, lui-même va répondre, il y a toute une polémique qui se crée et qui va entraîner sa rupture avec Port-Royal.
Oui, en fait, la phrase n'était pas destinée à lui. Il s'agissait de déconsidérer
un adversaire.
Voilà, exactement. Il l'a prise pour lui. Et effectivement, il connaissait très bien l'argument, puisqu'il avait été éduqué dans cette horreur du théâtre. Hein. Donc, depuis quelques années, il aurait subissé des admonestations de Port-Royal. Et là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, puisque c'était au moment même où il connaissait son premier triomphe avec Alexandre le Grand que le texte est sorti. Et donc, effectivement, ça a été l'occasion de sa rupture avec Port-Royal.
C'est l'époque aussi, il faut le rappeler, où la religion est assez maltraitée, puisque c'est également l'époque où Molière fait son Tartuffe.
Oui, mais son Tartuffe est destiné à attaquer les faux dévots et non pas les vrais dévots. Oui. Et ça, c'est, je veux dire, même si Molière se défend contre les attaques en disant cela, c'est aussi la vérité. Je pense pas même que le Racine, en rompant avec Port-Royal, a rompu avec la religion. Hein. Il continue très certainement à faire ses Pâques tout en allant au théâtre, en écrivant pour le théâtre et en ayant des maîtresses.
En tout cas, il va rompre aussi en 1666 avec Molière, ou en 67. Il va rompre avec lui alors que Molière avait fait jouer la première pièce de Racine.
Chacun le hait comme le hait son père.
Arrêtez ça immédiatement.
Monsieur Molière, je n'ai jamais écrit de danse dans ma thébaïde.
Votre thébaïde, monsieur, n'a pas fait 10 louis la semaine passée. Vous devriez baiser les mains de Roronet et de Marquis ici ce soir. Grâce à eux, nous faisons le double.
Oui, sans doute devrais-je baiser les vôtres, monsieur, d'avoir refait les parties du texte qui ne plaisaient pas au public.
Oui, monsieur. Car jusqu'à ce jour, au vers de Molière, on applaudit. Au vôtre, monsieur Racine, on baille et on s'ennuie.
Ne craignez-vous pas plutôt, monsieur, que le roi ne vienne à m'estimer plus que vous ?
L'ambition vous affole, jeune homme. J'essaie de sauver votre tragédie.
La sauver ? En galvaudant mes vers et en faisant danser Mademoiselle Duparc jusqu'au ridicule.
Comment pouvez-vous juger une comédienne qui ne vous a montré que le haut de ses jambes et le déhanchement qu'elle en tire ?
Vous ne méritez pas ma pièce, monsieur. Je vous la retire.
Et moi, monsieur, je vous la rends ! C'est-à-dire que je vous la vomis !
Et c'était la rupture entre Molière et Racine, qui vont devenir deux ennemis irréconciliables pendant 9 ans, jusqu'à la mort de Racine en 1673.
De Molière.
En 1673, Racine va vivre plus longtemps. On a souvent dit qu'il était un ingrat après avoir quitté Port-Royal, où il avait appris beaucoup de choses. Après, il rompt avec Molière. Est-ce que c'est vrai, ça?
Mais en fait, c'est la même année que ça se passe. Hein, c'est la même année que ça se passe. La même année qu'il y a cette polémique avec Port-Royal, alors on l'accuse d'ingratitude, mais l'ingratitude, elle est dans le fait même d'avoir écrit du théâtre. Hein. Bon. Et deuxièmement, là aussi, une large part de légende, parce que c'est Louis XIV lui-même, l'entourage de Louis XIV, qui a exigé que la pièce soit retirée, Alexandre le Grand soit retiré à Molière pour être joué par les meilleurs comédiens tragiques de l'époque de l'Hôtel de Bourgogne, tout simplement parce que le plus grand acteur tragique de l'époque s'appelait Floridor et qu'on n'imaginait pas voir quelqu'un d'autre jouer Alexandre le Grand que Floridor. Et inversement, chez Molière, c'était le beau Lagrange, le jeune Lagrange à la taille bien prise et bien serrée qui avait créé Don Juan, et on ne le voyait pas de créer le grand Alexandre.
Il y a aussi autre chose, on a entendu son nom dans cet extrait de film qui d'ailleurs lui est dédié, puisque c'est Marquise du Parc, c'est un film dont on entend des extraits. Or, cette Marquise était une comédienne de Molière, et Racine la lui prend pour lui faire jouer Andromaque au théâtre de Bourgogne. Alors, ce sera sa première, en tout cas, pas sa première, mais la plus célèbre de ses maîtresses, Marquise du Parc. Il y en aura une autre aussi, qui est la Champmêlée, Marie de Champmêlée, qui était, je crois, la plus grande tragédienne de l'époque.
Oui. Oui, qui passait pour la plus grande tragédienne de l'époque, effectivement. Alors qu'inversement, à la du Parc, Molière l'a enlevé en quelque sorte. Racine l'a enlevé à Molière, mais c'était un désir de la du Parc, parce que quand on examine toutes les créations de Molière, elle n'avait toujours que des seconds rôles charmants, où elle dansait, elle était celle qui attirait tous les regards, mais c'était pas une très bonne actrice. Et donc, en fait, c'est Molière qui l'a fait répéter comme un perroquet, c'est Boileau qui raconte ça, pour pouvoir lui apprendre ses rôles dans Alexandre le Grand, et du coup, c'est grâce à ça qu'il a réussi à l'imposer à l'hôtel de Bourgogne pour créer Andromaque.
Vous dites, Georges Forestier, que très souvent, ça se passait comme ça. Les comédiennes, c'était un peu c'était parmi les comédiennes que les tragédiens ou les comédiens comme Molière, enfin les auteurs, choisissaient leur maîtresse.
Écoutez, ça se fait toujours. un coq qui va pêcher dans son poulailler. Donc, je pense pas que c'est très différent à l'époque.
En tout cas, ce moment-là commence avec d'abord avec Duparc, ensuite avec La Chambellée, avec Andromaque, toute une série des plus grandes pièces de Racine. Les premières n'ont pas eu un succès énorme, ou en tout cas ne sont pas restées. Celles-là, à partir d'Andromaque, il y en a eu à 8 ou 9 à peu près, sont extraordinaires. Il y a eu Andromaque, Britannicus, Bérénice, Bajazet, qui était la première pièce turque, comme on disait, Mithridate, Iphigénie, Phèdre. Qu'est-ce qui fait le succès de ces grandes, grandes tragédies, à part les plaideurs, puisque c'était la seule comédie de Racine, Georges Forestier?
Mais c'est-à-dire que Racine est le premier à avoir réussi à marier la tragédie avec la passion amoureuse. Jusqu'alors, la tragédie était, le destin terrible qui arrivait au grand de ce monde. Et il se trouve que ce qu'a fait Racine, c'est montrer quel destin pouvait arriver au grand de ce monde lorsqu'en outre, ils étaient sujets à la passion amoureuse. Et ça correspondait à tout un climat qui était le climat de l'époque, qui était obsédé par ce qu'on appelait la galanterie amoureuse, etc. Et donc, il a réussi à satisfaire les amateurs de grande poésie et de théâtre depuis l'Antiquité en ayant recours aux grandes passions tragiques et le grand public qui n'attendait que de l'amour. Et donc cette fusion des deux a fait qu'il a été considéré tout de suite dès Andromaque comme le rival de Corneille et pour certains ensuite l'égal de Corneille.
Alors avec des pièces donc écrites en 10 ans, entre 1667 et 1677, la dernière qui est aujourd'hui une des plus célèbres, Phèdre, a été assez mal accueillie. Avoir raconté qu'il y a eu une espèce de cabale contre Phèdre parce que les rivaux, les adversaires, le parti cornélien comme on disait aussi, a fait en sorte que un obscur auteur qui s'appelait Pradon crée une Phèdre exactement en même temps que celle de Racine et artificiellement on en a fait un chef-d'œuvre.
Oui, alors ça c'était une pratique courante au XVIIe siècle aussi dans la guerre entre les théâtres d'opposer des pièces sur le même sujet. Il y a eu deux Bérénice, une de Corneille, une de Racine et effectivement on a lancé là ça a été vraiment une cabale, effectivement une Phèdre contre celle de Racine. Simplement, là encore, la légende a déformé les choses. La pièce concurrente a tenu 2 mois et demi avec des recettes médiocres et ça n'a pas été un succès, alors que tout de suite, la pièce de Racine a été un succès.
Cela dit, il est quand même très éprouvé par les critiques et les cabales. Racine, en 1677, décide d'arrêter d'écrire. Ça a surpris tout le monde. Et en tout cas, d'écrire pour le théâtre, d'autant que Louis XIV lui proposait une charge plus gratifiante.
La charge d'historiographe du roi m'est pratiquement assurée. Comme vous, je me dois d'avoir du talent. Puisque je suis sans noblesse, sans famille et sans rente. Je n'ai que moi-même pour tout bien.
Je n'ai pas le choix. Je me mets dans la main des puissants. J'y danse.
Thank you.
roi victorieux nous a fait ce loisir. C'est un extrait de l'idylle sur la paix de Lully, dont les paroles ont été écrites par Racine, alors là qui se surpasse en flagornerie. Hein. C'était une collaboration entre Lully et Racine pour chanter la gloire de Louis XIV. Aujourd'hui, aucun écrivain n'oserait faire une chose pareille, Georges Forestier.
Mais au XVIIe siècle, tous les écrivains le faisaient. Corneille, La Fontaine, Charles Perrault, il n'y a pas un écrivain qui ne se sente pas obligé à la fois moralement et politiquement, et en même temps, sentimentalement, d'écrire à la gloire du roi. Et Racine, à ce moment-là, était en outre, c'était pour la création d'une grande fête, l'inauguration de l'orangerie du château de Sceaux par le fils de Colbert, le marquis de Seignelay, et Racine s'est senti, ne pouvait pas échapper à cela, et je pense qu'il l'a fait sans répugnance et sans avoir du tout conscience d'être dans la flagornerie, parce que c'était le mode d'adresse au plus grand roi du monde, que je répète entre guillemets.
Et dont il était l'historiographe, alors ça c'est une charge évidemment importante, il était avec Boileau, hein, je crois, oui. Georges Forestier. Alors il est couvert d'honneur et d'argent à l'époque, et depuis un certain temps, il est académicien, il est anobli en 1674, hein, il est trésorier de France, gouverneur général des finances de Moulins. Pourquoi un auteur de théâtre devient trésorier de France? Ça veut dire quoi, ça?
Parce que le théâtre n'est pas certainement, enfin, il n'est pas une source de revenus certaine, et que lorsqu'on n'a pas de charge, il faut s'en assurer une. Je veux dire, il n'y a quasiment aucun écrivain qui vivait de ses rentes au XVIIe siècle. Donc, même si les Racines s'est largement enrichi, il a pu acheter des titres, c'est ce qui lui permet ensuite les revenus de pouvoir voir venir. Et fonder une famille en même temps.
Alors il se rend justement un pas mage d'intérêt plutôt avec Catherine de Romanet qui va quand même lui donner 7 enfants sans que ça désarme ses adversaires, parce que en 1679 éclate une gigantesque affaire, l'affaire des poisons, et là la voisine, la fameuse empoisonneuse de la cour, dénonce Racine, l'accusant d'avoir empoisonné 10 ans plus tôt sa maîtresse du parc qui aurait été empoisonnée par Racine.
Oui, alors là, il y a deux choses. C'est que effectivement, il y a l'affaire des poisons qui éclate, qui fait un remue-ménage extraordinaire entre 79 et 81 en France. Certains des plus grands seigneurs de la cour, le duc de Luxembourg, sont arrêtés quelques mois. Mais on s'aperçoit très vite, en fait, au fil des interrogatoires, que c'est pas la du parc de Racine qui a empoisonné en 1668, mais une autre du parc, une avorteuse comme la voisin qu'il avait dénoncée, une autre du parc en 78. Et donc, Racine a été blanchi sans que lui-même sache qu'il avait été inquiété, sans que quiconque, je veux dire, il y a aucun... On est au courant de cette histoire que Racine a été inquiété par les interrogatoires des archives de la Bastille. Je veux dire, c'est que les historiens qui ont découvert ça. Autrement dit, Racine est totalement innocent. Il a été innocenté de façon interne et on n'en a plus parlé. Et en fait, la Duparc, elle est morte effectivement de façon mystérieuse, mais mystérieuse comme au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'elle est morte d'une fausse couche ou d'une tentative d'avortement, tout simplement.
Et puis, Racine est protégée par Louis XIV et par sa dénette favorite, Madame de Maintenon, qui en 1688 fait revenir Racine au théâtre, mais pour y écrire d'autres pièces que des tragédies qui l'avaient rendu célèbre et pour les faire jouer devant le roi par les élèves de l'école de jeunes filles de Saint-Cyr.
Madame, Monsieur Racine est arrivé.
Monsieur, voilà bien longtemps que vous ne nous avez pas fait entendre votre voix.
C'est vrai, madame.
Je voudrais que vous écriviez pour moi une pièce qui corrige les effets néfastes de vos précédentes tragédies. Il y faudrait moins de passion et plus de morale. Faites-nous une histoire pleine de grandeur et qui élève nos esprits, qu'il célèbre les vertus. Me comprenez-vous?
Esther, que craignez-vous? Vivez, le sceptre d'or que vous tend cette main. Pour vous, de ma clémence est un gage certain.
Quelle voix salutaire ordonne que je vive et rappelle en mon sein mon âme fugitive.
Ne connaissez-vous pas la voix de votre époux?
Admirable. J'aime la pièce de M. Racine. C'est une harmonie de la musique et des vers si parfaite qu'on n'y souhaite rien d'autre.
Mademoiselle, ce soir, vous nous avez donné beaucoup de plaisir.
Et c'était un extrait de l'excellent film de Patricia Mazui, Saint-Cyr, cette école de jeunes filles où s'est joué Esther en 1688, 10 ans après que Racine ait renoncé au théâtre. Eh bien, il y revient avec des pièces très différentes. Hein. Cette fois-ci, c'est sur des thèmes bibliques. Georges Forestier, c'est Esther, puis c'est Athalie.
Oui, mais en fait, il revient pas au théâtre. Il écrit des pièces dévotes. Expressément pour l'institution de Saint-Cyr. C'est-à-dire, c'est Madame de Maintenon qui lui avait demandé, qui faisait déjà représenter des petites piécettes à titre de récréation pédagogique entre les jeunes filles, qui avait demandé à Racine d'écrire une espèce de poème qui permit de faire chanter et déclamer les jeunes filles. Autrement dit, Racine, comment dirais-je, il fait une œuvre pédagogique et pas du tout, il redevient pas du tout auteur de théâtre, d'autant plus qu'il avait rejoint sur ce plan-là ses amis jansénistes et il était devenu hostile au théâtre vivant.
Oui. Mais enfin, quand même, très bigot, ce retour au jansénisme, plus de 20 ans après qu'il ait rompu avec les jansénistes, avec Port-Royal, ça paraît étonnant, il veut mourir en odeur de sainteté, en quelque sorte.
Mais tous les hommes au XVIIe siècle étaient un peu chrétiens, ne songeaient qu'au salut de leur âme dès qu'ils voyaient la mort approcher. Et c'est un retour tout à fait normal. Je veux dire, il faut bien se dire qu'on est dans une société chrétienne. On a perdu aujourd'hui tout ce que ça pouvait être. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il s'est rapproché depuis de longues années. Ça faisait une vingtaine d'années que petit à petit, il était revenu vers eux. Et les dernières années, il ne pensait effectivement plus qu'à Port-Royal. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'une de ses tantes était actue à ce moment-là, abbesse supérieure de l'institution de Port-Royal des Champs. Et le fait que, je veux dire, le resserrement des relations filiales, la persécution que subissait Port-Royal, en fait, que Racine a fait
c'est courageux, parce qu'effectivement, persécutée par le roi, alors, Madame de Maintenon, certes, elle est confite en dévotion, avec elle, c'est le retour des bigots, mais quand même, c'est assez courageux de sa part. Alors, il a même voulu, je crois, être enterré à Port-Royal, ce qui était le cas, ensuite on l'a retiré quand on a détruit l'abbaye, et il est mort en 1699. Est-ce que Racine, Georges Forestier, c'est pas démodé aujourd'hui?
Ça dépend ce que vous entendez par démodé. Si on essaie de jouer Racine comme on l'entend dans le film, c'est-à-dire à dire les vers à toute vitesse.
Ça, c'était les jeunes filles de Saint-Cyr, c'était volontaire.
Oui, bien sûr. Mais elles le disaient beaucoup mieux à l'époque parce qu'elles avaient été formées par Racine, qui passait pour le meilleur déclamateur de son temps. Hein. Donc, si on joue bien Racine et qu'on arrive à faire ressortir les émotions qu'il y a, la survie de Racine est assurée par l'extraordinaire manière qu'il a de faire vivre les passions des hommes et les antagonismes nés des passions des hommes. Et en même temps, quand on lit Phèdre, la manière qu'il a de proposer une méditation sur la condition humaine. Et c'est ça la tragédie.
Phèdre, c'est votre préféré?
Non.
J'ai pas de préférence?
Non, je crois pas que j'ai de préférence, parce que chacune, Andromaque, est extraordinaire par la violence passionnelle des affrontements. Et non, je crois que je ne saurais choisir.
Ben écoutez, moi j'ai choisi, en tout cas j'ai choisi de vous lire une très bonne biographie passionnante, volumineuse, plus de 800 pages, Jean Racine, donc, qui vient de paraître chez Gallimard, et que vous avez signé, Georges Forestier. Vous avez aussi édité les œuvres complètes, théâtre et poésie de Racine chez Gallimard, dans la collection de la bibliothèque de la Pléiade. À lire aussi L'espace tragique dans le théâtre de Racine de Marc Suskin, édité chez L'Harmattan. Vous avez pu entendre des extraits de deux films, Marquise de Vera Belmont avec Sophie Marceau dans le rôle de la Duparc, et Lambert Wilson dans celui de Racine, édité en DVD chez Pathé. Et puis Saint-Cyr de Patricia Mazuy avec Jean-Pierre Calfon dans le rôle de Louis XIV, Jean-François Balmer dans le rôle de Racine et Isabelle Huppert dans celui de Madame de Maintenon, un film disponible en DVD chez Universal Pictures. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Michel Bézikian et Lévi Riotor, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi, une réalisation de Bertrand Chaumeton. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un des plus grands secrets de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire incroyable d'une machine à coder les messages de l'armée allemande, la machine Enigma. Mais tout de suite, à 14h30, très précise, la machine à décoder la musique sur France Inter, Musique Express. Eric Oswald, bonjour.
Bonjour Patrice. En effet, ici, on décode à plein tube. À demain.
À demain.
Ah, pas idée d'appeler son chien My Way. Comme d'habitude, je peux comprendre, mais My Way, c'est de la diffamation. Faut respecter l'exception culturelle. Cultural exception.
De la musique. Musique
Express.
Des sensations musicales inimaginables jusqu'à présent.
Eric Oswald.
Merci à vous, ça a l'air parfait maintenant.
Bonjour et bienvenue à bord de Musique Express pour la première de la semaine. J'espère que votre week-end a été excellent, que vous soyez au travail, chez vous, au repos ou en voiture. Bienvenue, une demi-heure de musique d'un peu partout avec, comme chaque lundi, une conclusion guitaristique. Il s'agit cette fois d'un titre qui, me semble-t-il, a déjà été passé dans Musique Express, The Gun du défunt groupe Catonoma, dont le leader, l'ancien leader Rodolphe Burger, nous rejoindra pour la fin de l'émission afin de nous parler de la 6e édition du festival C'est dans la vallée qui se déroule à partir de ce jeudi 8 juin et jusqu'au 11 juin à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace. Nous en reparlerons, mais pour nous plonger dans une ambiance pas très éloignée de celle de Rodolphe Burger, voici un de ses amis, Alain Bachung, dans une reprise étonnante.